bon week-end et bienvenue au panorama économique de cette semaine. Agathe Mpona et Lema et Nadine Foulan-Simba vous le présentent. Bonjour Nadine.
Bonjour Agathe.
Au menu de votre magazine, des dossiers, des nouvelles en bref, une rubrique matières premières, quelques grands sujets que nous avons abordés au cours de cette semaine et sur lesquels nous revenons dans le cadre de ce panorama. Parmi ces sujets, la RDC a loupé cette semaine de se connecter à la fibre optique. Nous reviendrons sur l'intervention du directeur général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, SCPT, qui est intervenu cette semaine sur nos antennes à partir de l'Afrique du Sud. Convention de prévention de la double imposition entre la RDC et la Belgique. Nous en reparlerons également, quels en sont les avantages, mais aussi les risques pour l'économie congolaise. Dans notre rubrique matières premières, nous reviendrons sur les minerais de l'Est et la loi Dodd-Frank, loi dont les mesures d'application se font toujours attendre et qui, entre-temps, occasionne une fraude minière à l'est du pays. Panorama économique, vous le savez, c'est la rétrospective de l'actualité économique de la semaine, une actualité commentée par un invité et aujourd'hui, notre invité est un jeune Congolais de la diaspora. Il vit en Allemagne et il est diplômé en économie nationale de l'université d'Heidelberg en Allemagne. Il est assistant en économie monétaire dans un institut supérieur en Allemagne et dans sa carrière, il a eu à enseigner la gestion d'entreprise. Il est depuis 2007 directeur d'un projet dénommé Action Congo. Notre invité s'appelle donc Kavuke Kambale et nous lui disons bonjour.
Bonjour Madame Elena.
Merci d'être des nôtres. Jean-Noël Mokondo assure la partie technique de votre émission. Chers auditeurs, merci de votre fidélité.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine a trait à la fiscalité. Vous ne le saviez peut-être pas, la RDC et la Belgique ont conclu une convention préventive de la double imposition entrée en vigueur au 1er janvier de cette année.
Selon le prof Marc Bourgeois, professeur de fiscalité à l'Université de Liège et à l'Institut supérieur de commerce ISC, elle vise la répartition du pouvoir d'imposition pour éviter que les investisseurs et les opérateurs économiques œuvrant dans ces deux pays soient taxés doublement. Quel est l'avantage qu'apporte cette convention de prévention de la double imposition pour le système fiscal congolais? Suivez plutôt la réponse que nous a accordé le prof Marc Bourgeois.
Quand une société belge, par exemple, de prestation de services, ou une société belge de construction, qui a son siège en Belgique et qui investit, ou qui effectue, place un chantier de construction, qui effectue un certain nombre de travaux, de prestations sur le territoire congolais, eh bien, cette société peut le faire par le biais d'une succursale, et elle va être taxée deux fois, une fois en RDC et une fois en Belgique. Et, idem aussi pour les investissements de capitaux. Et donc, l'objectif fondamental de la convention de double imposition conclue par la RDC et la Belgique, c'est de permettre à ces deux pays de se répartir le droit d'imposer. Dans telle situation, c'est toi qui taxes, mais dans telle autre situation, c'est moi qui taxe. Afin d'éviter aux contribuables concernés d'être taxés doublement.
Monsieur Kavuke Kambale, nous vous rejoignons. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes notre invité dans ce panorama. Vous vivez en Allemagne. Alors, que pensez-vous de ce genre de convention que peuvent signer deux pays?
De prime abord, je dirais ceci. En termes simples, quand on facilite aux investisseurs ou aux entrepreneurs la tâche en essayant d'éviter la double imposition, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est un élément de départ. Mais à chaque fois que deux États, que deux personnalités économiques se rencontrent sur un thème, il faut toujours savoir qui est l'initiateur de la rencontre ou du thème, qui a commencé. Et par rapport à ça, vous allez vous poser la question de savoir, donc, j'imagine certainement que ce soit la Belgique qui ait commencé, parce que c'est la Belgique qui vient à travers les investisseurs plus investir au Congo. Ça, c'est premièrement. Et quel est l'intérêt de la Belgique par rapport à ça? Et quand vous voyez dans cet aspect-là, où vous posez alors la question de savoir comment le Congo a réagi, comment le Congo, en acceptant cette convention, quelles ont été les stratégies pour le Congo de bénéficier par rapport à ça. Parce que, de premier abord, vous avez une entreprise, comme l'a dit le professeur, qui est installée en Belgique, et vous avez une succursale en République démocratique du Congo.
Oui.
Mais là où on produit, là où on travaille, l'état dans lequel on produit est obligé et la première personne à recevoir les impôts de cela. Alors, quand vous faites un accord comme ça,
oui,
et vous dites qu'on va éviter la double imposition, il faut aller dans les détails dans cette émission et dire quelles sont les clauses parfaites de cette imposition. C'est de quoi qu'on parle réellement.
Mmh. Mais est-ce que vous pensez, comme tous ces internautes qui ont posté des commentaires sur le www.radiocapi.net, est-ce que vous pensez que du fait qu'il y ait plus d'investissements belges en RDC que l'inverse, ces accords ne profiteront finalement que à la Belgique?
Ah oui, pas nécessairement. Je dis pas nécessairement à la Belgique, parce qu'on l'a dit de l'autre côté, nous voulons créer de l'emploi chez nous. Nous voulons que nos jeunes aient des emplois. Et pour cela, on doit faciliter les entrepreneurs. Si nous, les Congolais, nous n'avons pas assez d'argent pour investir, il faut attirer les investisseurs.
Mm-hmm.
Mais il faut aller de l'autre côté de la marche. Ça veut dire, du point de vue recette fiscale, si on a dit dans cette clause que les entreprises seront taxées en Belgique, bon, c'est la Belgique qui va en profiter en termes de recettes fiscales, mais de l'autre côté, ils viennent créer des emplois. Et dans la stratégie de l'État congolais, il faudrait dire, écoutez, combien des emplois vous créez? Il faut faire une analyse du coût et une analyse d'utilité. Est-ce que le manque que nous avons en faisant ça est-il réellement compensé par la création de l'emploi ou par d'autres profits non qualifiés en espèces? Mm-hmm. Il faut faire cette analyse. Et ça, c'est la part du gouvernement congolais, c'est la part de l'État congolais. Mm-hmm. L'État congolais devrait nous présenter les résultats de cette analyse.
Mm-hmm. Mais quels sont finalement, quels pourraient être les risques que pourrait comporter ce genre de convention pour l'économie du pays?
Je dirais ceci, un État qui ne s'est pas préparé, c'est-à-dire un État qui n'a pas fait l'analyse avant de signer des conventions pareilles,
mm-hmm,
n'a pas le comment on dit en allemand, on parle de public, on dit, il ne maîtrise pas la chose, mais je suppose que notre gouvernement a dû faire cela, et pour revenir à la question, c'est le désavantage. En principe, nous sommes ici dans les théories.
Oui.
La République démocratique du Congo profite qu'il y ait un afflux d'investissements belges en République démocratique du Congo.
Oui.
Il y a, vous pouvez voir aussi la balance de paiement. Cet afflux d'investissements belges, c'est de la devise étrangère qui est investie au pays, qui est mise au pays, et la balance de devise affiche un côté positif parce que, en République démocratique, les importations sont supérieures aux exportations. Ce déficit fait en sorte que la monnaie congolaise est sous pression de dévaluation.
Mm-hmm.
Mais de l'autre côté, quand vous recevez les capitaux étrangers, vous stabilisez le côté monétaire.
Le temps pour nous donc de revenir à ce deuxième dossier de la semaine qui nous conduit dans la province de l'Équateur. Celle-ci doit élaborer un plan de développement clair si elle veut changer sa situation socio-économique, Nadine.
Elle se révèle être aujourd'hui l'une des plus pauvres de 11 provinces de la RDC, malgré sa superficie, son potentiel aussi bien agricole, climatique qu'hydrographique. Ceci ressort du rapport des différents projets de la Banque mondiale dans cette province présenté le week-end dernier à Kinshasa. Les résultats sont plutôt interpellateurs. Plus de 93% de la population de la province de l'Équateur est pauvre. Les détails avec Daniel Tambizoni.
Cette extrême pauvreté de la province de l'Équateur se justifie, selon la Banque mondiale, par la mauvaise utilisation et mauvaise affectation des maigres ressources financières que mobilise difficilement la province. Actuellement, plus de 75% des finances de la province, principalement lui rétrocédées par le gouvernement central, sont orientées vers les dépenses de souveraineté. Et ces dépenses, on le sait, sont réputées improductives. Seulement 15% des finances servent au secteur prioritaire, entendez, énergie, santé et éducation par exemple et 5% pour autres secteurs. Voilà qui est déséquilibré et ne permet pas à la province de s'épanouir. La Banque mondiale propose par contre la clé de répartition, 40% pour les dépenses prioritaires, 40% pour la souveraineté et 10% pour autres secteurs. Un autre obstacle, la province est confrontée à un problème sérieux d'infrastructure. Seulement 43 km de route sur un réseau de plus de 14 000 km sont asphaltés. L'économie de la province de l'Équateur est essentiellement agricole, mais curieusement, à peine 5% des 33 millions d'hectares arables sont cultivés et c'est une agriculture de subsistance dépourvue d'investissement. Couverte à plus de 70% par la forêt, mais ce secteur participe faiblement à l'économie provinciale. Définir un cadre macroéconomique pour chaque province aujourd'hui s'avère une nécessité. Il passe par l'élaboration d'un budget qui mesure mieux les conséquences des politiques des autorités provinciales, estime la Banque mondiale.
Voilà, nous retrouvons M. Kavuke Kambale, il vit en Allemagne et c'est lui notre invité aujourd'hui. Monsieur Kambale, quel commentaire vous inspire cet état des lieux plutôt triste de la province?
Oui, la province de l'Équateur, qui devrait vraiment être un poumon de réflexe pour la République démocratique du Congo, ne l'est pas. Moi, dans mon analyse privée, je fais confiance au secteur privé.
Ouais.
Je pense que l'État congolais ne devrait pas être celui qui en prend. Non, c'est pas ça. On doit faire confiance au privé, mais il faut pourvoir à ces privés, leur donner une assiette dans laquelle ils pourront bien investir, bien entrevoir leurs affaires. Cela passe par l'infrastructure, ça a été dit. Il y a aussi le phénomène de la politique de décentralisation qui doit certainement être directement appliquée. Et il faut vous poser la question de savoir, une province comme l'Équateur pourrait exporter le bois. Vous savez, la valeur du bois sur le marché international. Hein. Il y a aussi, bien entendu, je n'oublie pas que quand il y a aussi le problème de la déforestation, et il faut penser à replanter les arbres si on les a coupés. Mais de l'autre côté, il faudrait que si un Congolais décide d'investir dans ce domaine-là, ou un étranger, il faudrait qu'il ait la capacité d'aller le vendre à l'étranger. Et là intervient le problème de l'infrastructure.
Mmh. Donc vous pensez...
On ne peut pas demander certainement au gouvernement central d'entreprendre ou de créer des entreprises. Non, ce n'est pas au gouvernement. Le gouvernement doit assainir le cadre pour que le privé puisse s'épanouir dans cette branche. Et là, vous aurez les directes conséquences de la politique de redistribution.
Le secteur privé et les investisseurs privés sont donc appelés à investir dans cette province pour la faire décoller. Le gouvernement appelé à mettre les structures de base nécessaires pour attirer ces investisseurs. C'est du moins ce que nous propose Kavuke Kambale, notre invité. Et le troisième dossier de la semaine nous parle de la technologie avec le lancement officiel mardi dernier en Afrique du Sud du projet WAX. Il s'agissait de lancer officiellement la connexion à la fibre optique de 14 pays africains, dont la RDC, le Togo et la République du Congo qui se connectaient pour la première fois, Nadine.
Mais de ces 14 pays, seule la RDC n'a pas été au rendez-vous. À la base, le retard dans l'avancement des travaux de construction de la centrale d'atterrage du câble optique a reconnu la DG de la SCTP, Placide Mbatika, depuis l'Afrique du Sud. Suivons cet entretien réalisé avec Daniel Tambizoni.
Nous sommes allés assister à un lancement du projet WAX, WAX qui veut dire West African Cable System. Donc il y a les câbles de la fibre optique qui quittent Londres, qui longe la côte ouest de l'Afrique, qui va jusqu'à Cape Town, long de 14 600 km, et qui ça a coûté une bagatelle de 600 millions de dollars. Donc on a fait un lancement où on a pris 14 pays en charge qui sont connectés. Dans ces projets, il y a trois pays africains qui devaient être connectés pour la première fois, entre autres la République populaire du Congo, la RDC et le Togo. Sur les 14 pays, un seul pays n'a pas été connecté, c'est la RDC. Ça n'a pas été connecté parce que nous sommes un peu en retard par rapport à la construction du point d'atterrage qui s'avère être le port de sortie de tout, des connexions de la RDC à ces fibres optiques dont je vous ai parlé.
Monsieur l'ADG, la RDC a déjà raté plusieurs échéances comme ça. Toujours les travaux de construction de cette centrale-là ne se terminent pas. Les travaux vont aller comme ça jusque quand?
On peut vous donner la garantie que cette fois-ci, la RDC sera prise en charge. Nous sommes convaincus que dans les deux mois qui suivent, les travaux seront finis. Nous avons l'avantage cette fois que il y a trois vecteurs qui concordent. Il y a la volonté politique qui est très engagée à ce que ça marche. Il y a la compétence de l'exécutif de la SCPT. Il y a aussi la volonté de tous les employés de la SCPT pour que ça marche. Donc, fin août, nous serons déjà connectés.
La RDC se dit être cette fois-ci déterminée, mais elle a quand même loupé ce rendez-vous, ou plutôt elle voit ce rendez-vous reporté pour elle, le rendez-vous qui consistait à se connecter à la fibre optique. Monsieur Kambale, quel commentaire?
À mon avis, c'est... Je ne pourrais pas dire que c'est dommage ou que c'est pas dommage. Je renvoie la balle à l'État congolais pour poser la question de savoir si c'est une priorité. Est-ce que la République démocratique du Congo a défini cette fibre optique comme une priorité? Si la République démocratique du Congo ne l'a pas défini comme une priorité, en conséquence des résultats des analyses faites en amont, donc c'est tout à fait normal que le Congo n'ait pas répondu présent à ce rendez-vous. Et ça relève du logique. Alors, il ne faut pas donner l'impression qu'on est obligé d'entrer dans cette hypothèque. Que l'État congolais est obligé d'entrer là. Pour reposer la question de l'État congolais, pour dire quels sont les avantages, quelles sont les retombées de cette fibre optique pour l'État congolais? Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Certainement que les entreprises privées, ben j'insiste, diront « Oh, écoute, là, on veut bien faire ça, ou on aimerait bien qu'on soit connecté. » Mais quand on rate, quand on dit comme ça que « Bon, nous n'avons pas, les travaux sont en construction, ou patati patata », ça veut simplement dire qu'on n'a pas... on n'a pas vraiment trouvé l'intérêt de faire ça. Parce que si on l'avait trouvé, on serait présent. Parce qu'on ne peut pas rater chaque fois des trucs comme ça. Ça ressort de l'illogique.
Oui, mais c'est selon votre propre raisonnement, je vous repose la question. Est-ce que, selon vous, cela devrait être une priorité ou du moins un objectif à atteindre pour la RDC de se connecter à cette technologie? Parce que nous savons, il y a quand même plusieurs avantages économiques liés à cela, plusieurs emplois qui peuvent être créés. Ça serait le décollage de la société congolaise des postes et télécommunications, sans compter les sous-emplois qui pourraient être créés par cela et les différentes autres facilités pour les Congolais. Est-ce que, selon vous, cela devait être une priorité?
On ne parle pas comme ça sans analyse. Je parle au départ, j'ai bien dit au départ, quand l'État va prendre une décision, elle dit, les coûts c'est combien, l'utilité que nous rapporte ça c'est combien. Et seulement après cette analyse, on peut dire on fait ou on ne fait pas. On ne dit pas on entre dans le WAC ou dans la fibre optique parce que tous les autres pays sont entrés dans la fibre optique.
Oui, mais
moi, je constate simplement que ces manques à répétition, donc ces manquements au rendez-vous à répétition, démontrent certainement que ce n'est pas une priorité pour l'État congolais. Ça veut dire, après les analyses de l'État congolais, ils disent, bon, ça ne nous rapporte pas tellement. C'est-à-dire, l'État congolais a calculé à l'avance les retombées sur l'emploi, les retombées sur les impôts, les retombées sur tout ça, et a conclu que ça ne vaut pas la peine. Parce que si l'État congolais avait conclu que ça valait la peine, elle serait présente. Et elle ne dirait pas, sur les ondes d'une radio, que nous avons raté à cause de la construction.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Hausse des prix des produits pétroliers en général et de l'essence en particulier à Kindu dans le Maniema.
Cette hausse est observée depuis la semaine passée où les litres étaient vendus entre 3400 et 4000, voire 6000 francs au lieu de 2800 francs congolais. Cela a eu d'impact sur la course moto, principal moyen de transport en commun à Kindu. Ainsi, la course est passée de 500 francs à 800 francs ou 1000 francs, voire 1500 francs.
Encore une hausse des prix. Nous sommes là au Nord Kivu et à Butembo particulièrement. La course moto est passée de 10 à 15 dollars en 3 jours et c'est la conséquence de la grève des conducteurs de taxi-voiture qui font la route Beni-Butembo.
Par cette grève, les conducteurs de taxi-voiture s'insurgent contre le mauvais état de la route Butembo-Beni. Malgré la perception des taxes, le FONER ne fait rien pour réhabiliter cette route qui non seulement relie les deux villes, mais aussi les noms qui voient la province orientale et même à l'Ouganda voisin, une route importante pour le commerce et la circulation des personnes et de leurs biens.
Voilà quelques nouvelles du Congo profond, des nouvelles à caractère économique. Kavuke Kambale vit en Allemagne. Qu'est-ce que cela lui donne à commenter?
Dans une économie ouverte, à chaque fois qu'il y a un événement sur le marché, ça a des répercussions directes sur le prix. Parce que bon, les gens fixent le prix dans toute liberté. Hein.
Oui.
Et ce qui se passe à l'intérieur du pays reflète effectivement cette ouverture à l'économie libre du marché. Bien que ces hausses de prix ont des impacts sur l'inflation qui, de ce fait, diminuerait le pouvoir d'achat de la population. Et il faut, encore une fois, appliquer des politiques anti-inflationnaire pour remédier à ce problème, parce que l'inflation baisse le pouvoir d'achat, baisse l'utilité générale d'une population.
Oui, mais on se rend compte que finalement l'économie de la RDC est vraiment trop fragile. Il suffit d'un tout petit mouvement sur le marché, par exemple à Kindu, on parlait tantôt de la hausse du prix des produits pétroliers, il suffit que le train n'arrive pas, retard de un jour, de deux jours, et c'est le blocage complet. Pourquoi notre économie est aussi fragile et comment faire pour y remédier?
Je ne parlerai pas de la fragilité, je parlerai de l'ouverture. Je prends l'exemple ici en Allemagne. Le prix du carburant est maintenant à 1,61 €. La semaine passée, ça passait aussi à 1,70 €. Et les scientifiques estiment qu'à la fin de l'année, on sera certainement à 2 € le litre. Et ça a des conséquences. Le gouvernement n'intervient pas là. On laisse parce que ils acceptent ils ont pris l'option de l'économie libre. De l'autre côté, ça n'empêche pas l'État d'appliquer des politiques anti-inflationnaires sans intervenir directement dans le marché.
Quelles pourraient être ces politiques anti-inflationnaires, comme vous les appelez?
Alors, pour revenir au marché, les prix augmentent quand il y a la rareté. Ça veut dire, toute politique permettant à augmenter la production conduit à la baisse des prix. Mais le problème du carburant, c'est que c'est international. À chaque fois qu'il y a des problèmes en Arabie Saoudite ou dans les pays producteurs de pétrole, ça a des conséquences sur le prix du pétrole chez nous. Par rapport à la République démocratique du Congo, nous avons l'avantage parce que nous pouvons devenir un grand producteur des produits pétroliers et ainsi nous pourrions protéger nos pays par rapport à ces données inflationnistes venant de l'étranger. Si nous-mêmes nous arrivions à produire et à desservir le marché intérieur, on serait épargné de ces effets extérieurs.
Mmh. Du pétrole. Oui, mais vous pensez pas que s'il y avait d'autres mesures simples comme l'amélioration des voies de transport et de communication, les prix ne varieraient pas aussi facilement et aussi fortement?
Non, le problème du carburant, c'est un problème international. Et voilà pourquoi vous voyez que tous ces pays du Golfe sont toujours la cible des grands pays capitalistes, parce que ce qui se passe dans ce pays a des incidences directes dans d'autres pays, parce que tous les autres pays sont importateurs de pétrole. Alors, nous pouvons, je redis, nous pouvons pallier à ce problème si nous commencions à produire le pétrole de manière à ce que nous puissions desservir notre propre pays. Et le reste, nous pourrons l'exporter.
Et Panorama économique se poursuit.
Panorama économique, matière première.
Le commerce des minerais de l'Est de la RDC, des minerais de sang, était au centre d'un échange aux États-Unis d'Amérique entre les autorités américaines et une délégation congolaise.
Ce Congolais, dont un activiste de la société civile, deux représentants des institutions minières, un député et un avocat, y ont séjourné pendant 3 semaines sur initiative de l'ambassade américaine de Kinshasa. Rappelez-vous qu'il y a plus de 2 ans, le gouvernement des États-Unis interdisait par la loi Dodd-Frank l'achat de ces matières par tous les utilisateurs installés sur son territoire. Les constats des émissaires congolais. Le retard observé dans l'élaboration des mesures d'application de cette loi encourage la contrebande minière à l'est de la RDC. Lucien Baimba, avocat à Bukavu, membre de la délégation, au micro de Daniel Tambizoni.
Pendant que ces mesures d'application la traînent, c'est la contrebande qui est en train d'être renforcée. Et là, je parle de l'est de la province où je vis. Vous comprenez, les gens exploitent, mais les consommateurs n'achètent plus. Et par conséquent, le minerai passe par la fraude, traverse les frontières pour être vendu dans les pays voisins. Et quand ces minerais-là traversent ces frontières-là, ces minerais-là sont considérés comme étant des minerais déjà lavés et ça devient des minerais propres. C'est ce que nous avons aussi décrié cela. Et c'est ainsi que nous avions suggéré que les mesures d'application-là qui sortiraient demain ou après-demain puissent tenir compte des pays voisins. Parce qu'il y a de ces pays-là qui exportent plus qu'ils ne produisent. Et comprenez directement, les surplices là de leur exportation viennent d'où? Ça met beaucoup de gens en difficulté parce qu'ils ne vivent que de cette activité. Là aussi, ce que vous, je vous dis, présentement, c'est seulement les Chinois qui achètent. Ils imposent même le prix. Ce sont là les conséquences du fait que ces mesures-là d'application traînent.
Voilà, les mesures d'application de la loi Dodd-Frank qui traînent et qui occasionne des manques à gagner pour le secteur minier de la RDC. Monsieur Kavuke Kambale, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cela et ça sera sûrement votre dernier mot?
J'allais tout simplement dire encore une fois, nous produisons des minerais, mais utilisons-nous ces minerais? Si nous n'utilisons pas ces minerais, nous sommes obligés de les vendre sur le marché international. Et si, à cause de quelque raison que ce soit, une personne dit nous n'allons pas vendre ou maintenant nous ne vendons pas parce qu'on doit d'abord appliquer ça, ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et je donne un exemple clair. Supposons que moi, j'ai calculé ici, je me dis, bon, écoute, je peux faire un investissement au niveau de l'or à l'est du Congo, et selon mes calculs, tout va bien. Et quand je vais en République démocratique du Congo, on me dit, écoutez, parce qu'on doit appliquer une loi X, vous ne pouvez pas le faire maintenant. Mais vous laissez, d'une manière ou d'une autre, les gens vont chercher d'autres moyens pour le faire. Les gens vont chercher d'autres moyens pour le faire. Vous pouvez aujourd'hui dire, nous refusons de vendre tel produit, nous refusons jusqu'à ce que tel truc ne sera pas appliqué. Mais ce n'est pas praticable. Il faut rentrer dans la réalité. Et par rapport à cette loi, bon, ce sont les mêmes entreprises, les États-Unis d'Amérique, les mêmes entreprises de l'Occident qui ont besoin de ces matières premières. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire des lois qui leur empêchent de faire leur activité. C'est à nous de nous poser des questions et de bien analyser les données. Parce que ce sont eux qui ont les tenants et les aboutissants de ces marchés. Ils ne peuvent pas créer des lois, ils ne peuvent pas mettre des conditions qui leur mettent eux-mêmes les bâtons dans le monde. Alors qu'on laisse de nos pays.
Voilà, et c'est par ce commentaire que prend fin Panorama économique de ce week-end. Merci à Kavuke Kambale, économiste congolais qui vit en Allemagne, d'avoir été notre invité.
Merci, c'est toujours arrêté pour moi.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci de continuer à le faire du lundi au vendredi à partir de 18h15 de Kinshasa dans Écho d'économie. Panorama économique, ça sera pour la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, passez un bon week-end en compagnie des programmes de la Radio Okapi.